BFM Business, objectif, raison d'être, Cyril Ariel.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on vous propose une émission spéciale. Nous sommes à Rennes, au Parc des Expositions, pour le salon CEFIA, le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Pour sa 26e édition, nous allons recevoir dans cette émission le directeur du salon. Puis ensuite, bien évidemment, nous allons faire un focus sur les tendances des consommateurs, mais également alimentaires pour l'alimentation de demain. Et puis ensuite, nous allons vous présenter deux pépites, deux acteurs de cette industrie. Allez, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont nombreux et ils s'engagent.
BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.
Je suis dès à présent avec le directeur du salon, Sébastien Gillet. Merci infiniment de nous accueillir. Alors ici, ce sont 45 000 mètres carrés. Alors expliquez-nous, qui sont ces exposants et quel est, on va dire, l'ADN de ce salon CEFIA?
Bonjour à vous. Déjà, merci aussi à vous d'être là. C'est un vrai coup de projecteur vous donner à l'agroalimentaire. C'est 1600 exposants. C'est le plus grand rassemblement agroalimentaire en France. Il n'y a pas de grande industrie sans grand rassemblement. Et le CEFIA va illustrer en fait tous les enjeux de l'agroalimentaire sur les 10, 20, 15 prochaines années. Au CEFIA, en fait, vous allez retrouver comment on va se nourrir demain. C'est important parce qu'on parle souvent des produits finis, mais avant d'avoir un produit fini, il faut le transformer. Et tout le matériel pour le transformer en sécurité alimentaire, en packaging, se déroule sur ces trois jours-là, sur ces 1600 exposants.
Alors, actuellement, cette année, en 2023, c'est la 26e édition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1997? D'où vous est venue cette idée de faire ce carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire?
Eh bien, nous, on voulait apporter en 1997, comme vous l'avez dit, dans la première région agroalimentaire européenne.
J'étais à peine née, hein?
J'étais déjà née. J'avais 25 ans, pour être transparent avec vous. Et en fait, on voulait apporter dans la première région agroalimentaire européenne un salon qui mettait en avant le premier secteur industriel français. N'oublions jamais, c'est plus de 450 000 salariés. On a des enjeux, on l'a évoqué tout à l'heure et j'imagine qu'on en parlera après. Mais c'est juste l'idée de se dire, apportons près des usines dans l'agroalimentaire le savoir-faire, de l'innovation pour une nouvelle fois se projeter sur les prochaines années agroalimentaires. Et depuis 26 ans, ça devient un rendez-vous incontournable pour les professionnels.
Alors concrètement, cette année, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les plus grosses innovations? C'est qui les stars? Qui sont les stars de ce CEFIA 2023?
Alors les stars, on aimerait que ce soit les jeunes. Et une nouvelle fois, cette édition, elle est dédiée sur deux sujets. La décarbonation, qui est un sujet majeur dans l'industrie et principalement dans l'agroalimentaire, notamment avec la sobriété énergétique et la problématique de l'énergie. Et les jeunes, et on a dédié bien sûr des animations pour les jeunes parce qu'on a une belle démographie en France, on a un savoir-faire, n'oublions pas que la gastronomie française est reconnue mondialement, mais aussi le savoir-faire à travers la transformation. Mais si d'ailleurs on n'a pas de jeunes, on va se retrouver un petit peu embêté dans les prochaines années. Donc c'est la thématique, les jeunes et la décarbonation, et dans les innovations, alors vous en avez plein, vous en avez dans les ingrédients, comment on va mieux manger demain, du local, comment on va manger plus sain. C'est important de rassurer le consommateur aujourd'hui parce qu'on a eu quelques sujets il y a quelques années sur l'alimentaire et on veut une nouvelle fois rassurer le consommateur sur la traçabilité des produits, une nouvelle fois sur le clean label. Donc c'est des sujets qui sont évoqués. Et quand on parle d'emballage aujourd'hui on recycle on réutilise l'emballage et aujourd'hui on va faire des barquettes en papier, chose qui n'existait pas il y a 10 ans, qui vont remplacer en fait l'aluminium et qui vont être utilisées et recyclées après. Donc ça fait partie des innovations qu'on va avoir sur le salon. Après, bien sûr, quand on parle d'énergie, aujourd'hui on a un maximum d'exposants qui vont soit aujourd'hui faire leur énergie à travers du panneau photovoltaïque, soit avec de la méthanisation, ou soit une nouvelle fois en modernisant l'outil industriel. C'est un des sujets qui a été évoqué par le ministre dans ses accompagnements sur les IA. Modernisons l'outil industriel, la robotique.
Donc il y a véritablement un vrai virage. Vous voyez la différence depuis 1997.
Complètement.
On innove, on est plus responsable, on est plus durable, on est plus green.
Ah oui, complètement. Et on est en phase avec le consommateur. Et de toute façon, le CEFIA aujourd'hui suit la demande du consommateur. S'il veut le manger propre.
Comment évoluer alors le consommateur?
Le consommateur va évoluer. Aujourd'hui, on est flexitarien, donc on n'est plus comme avant. Donc on va manger une nouvelle fois peut-être moins de viande, moins de poisson. En tout cas, on va varier son alimentation. On est beaucoup dans le nomadisme aujourd'hui. Le nomadisme intervient à travers les machines que vous avez avec vous, sur du package mini individuel. Donc aujourd'hui, on a vraiment suivi complètement le mode d'alimentation, le mode de consommation du grand public. Le grand public ne connaît pas le CEFIA, comme je l'ai expliqué en introduction. On est plutôt connecté sur le produit fini. Mais avant d'arriver au produit fini, avant de l'emballer, avant de le consommer, tout se passe au CEFIA.
Alors concrètement, comment on fait pour postuler, par exemple, au CEFIA cette année? Quels ont été les critères de sélection?
Alors, on a la chance, au CEFIA, c'est un salon qui est complet souvent 3-4 mois avant l'édition, parce qu'on est dans la première région agroalimentaire, parce que c'est une institution, comme vous l'avez dit, c'est 26 ans, et on ne peut pas agrandir et on ne souhaite pas agrandir. L'équilibre d'un salon, c'est toujours difficile à trouver entre le nombre d'un visiteur et le nombre d'exposants. On est dans la capitale de l'agroalimentaire sur lequel on a pris l'ensemble des halls disponibles. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas de possibilité d'évolution ou d'agrandissement du salon. Après, comme dans chaque édition, vous avez des exposants qui souhaitent faire un an sur deux pour différentes raisons, stratégiques, budgétaires, et qui permettent tranquillement de renouveler parfois l'offre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est y apporter chaque année de la nouveauté, notamment des start-up qui amènent toujours un côté novateur, un côté agilité dans l'innovation. Et cette année, enfin en tout cas l'année prochaine, on essaiera d'ouvrir une possibilité d'avoir une cinquantaine de start-up qui est une demande de notre visiteur.
Et quels sont, on va dire, le savoir-faire français? En quoi on excelle chez nous en France?
On est agile. On a une agilité dans l'industrie qui est méconnue du grand public. Et tous les industriels que vous avez avec vous, ils ont suivi les crises, soit alimentaires, soit, comme vous l'avez dit en introduction, la crise de l'Ukraine, la crise des gilets jaunes, la crise aujourd'hui de l'énergie. Et à chaque fois, on a eu une industrie, des industriels qui ont été agiles, qui ont anticipé les crises à travers ces problématiques. Donc aujourd'hui, on doit être fier de cette industrie, qu'on arrête un petit peu des fois d'être toujours regardé outre-Rhin. Soyons fiers de ce que aujourd'hui nos industriels, TPE, PME, grands groupes, les grands groupes aujourd'hui présents au CEFIA accompagnent les petites entreprises sur la pédagogie, sur la culture et pas que sur le financement. Et le financement, c'est le rôle des pouvoirs publics.
Bien évidemment. Écoutez, merci infiniment Sébastien Gillet. J'ai hâte maintenant, nous allons bientôt décortiquer les tendances. Voilà, c'est le sujet de la suite de cette émission. Merci infiniment.
Merci, je vous souhaite merci, un excellent salon. Merci une nouvelle fois BFM Business. Merci.
Et il est temps maintenant d'aborder les tendances de fond en matière d'agroalimentaire. Et je suis ravie de vous présenter Sophie de Rénal.
Bonjour Cyrielle.
Bonjour, vous êtes directrice marketing de NutriMarketing, une agence que vous avez fondée avec vos deux autres sœurs il y a 25 ans. C'est une agence spécialisée dans la veille de l'innovation, le développement de nouveaux produits, la communication nutritionnelle. Alors de manière très concrète, Sophie de Rénal, quelles sont les 5 tendances de fond actuellement en alimentaire?
Alors, 5 tendances de fond qui nous accompagnent presque, j'allais dire, depuis les 25 ans de la création de l'agence. Vous avez la praticité, donc il faut que les produits soient faciles à accéder, à avoir. On va avoir des produits qui doivent gagner en mobilité. Hein. Ils ne peuvent plus se contenter d'attendre le consommateur sur les étals des supermarchés. Il faut vraiment qu'ils arrivent jusque dans nos frigos, dans nos placards, voire dans notre estomac. On a une tendance plaisir, bien sûr, ça on est en France en plus. On a une tendance développement durable, bien sûr, faire attention à la planète. On a une tendance santé, faire attention à soi aussi. Et puis, on a une tendance naturalité, hein, avec tous les additifs dont on ne veut plus.
Alors effectivement, au niveau des industriels, on demande, est-ce que c'est l'attente des consommateurs? On veut moins de produits transformés parce que c'est aussi meilleur pour sa santé? Comment ça se passe?
Absolument. Sur la tendance naturalité, au départ, on a voulu moins d'additifs. Et donc maintenant, on est plus sur une tendance où on veut des ingrédients familiers, une liste courte d'ingrédients et moins de transformation. Ce phénomène-là, il nous vient, figurez-vous, du Brésil. C'est le guide Nova qui a été mis en évidence par le professeur Montero et qui dit, voilà, nous, on a nos 5, on nous recommande 5 fruits et légumes par jour, on nous recommande 3 produits laitiers, etc. Chez eux, c'est vraiment manger le moins d'aliments transformés possible et le plus d'ingrédients bruts.
Alors, quand on est consommateur, on fait comment? Qu'est-ce qu'on regarde?
Alors, on va regarder évidemment la liste des ingrédients.
On n'y connaît rien.
Mais si, vous y connaissez, bien sûr. Voilà, il faut que vous sachiez justement ce qu'il y a dans votre produit. Et si vous connaissez tous les ingrédients, c'est que c'est bon. En fait, ça peut être aussi simple que ça, puisque tout ce qui est conservateur, additif, colorant, évidemment, vous allez les fuir.
Alors, parmi les tendances, je crois, j'ai ouï dire que c'est la tendance du végétal qui a le vent en poupe. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Alors, je vais vous dire, peut-être la première fois dans mes 25 ans de carrière, on a un consensus sur l'intérêt de consommer des produits. Et là, c'est les produits végétaux.
Parce que c'est... Alléluia,
alléluia.
Enfin,
oui, parce que d'habitude, il y a toujours des controverses. Oui, mais non. Là, c'est vraiment un consensus. Et on a, pour 3 raisons principales. La première, c'est pour faire du bien à la planète. Ensuite, pour faire du bien à notre santé. Et enfin, pour évidemment le bien-être animal, puisque ça nous évite de tuer des animaux.
De manière très concrète, expliquez-nous. Parce que moi, ouais, je comprends, 9 ans que je ne mange plus un animal. Mais en quoi, par exemple, Moi, j'adore les avocats, mais si c'est un avocat qui vient du Mexique, au niveau de la planète, je ne suis pas non plus toute green, en fait.
Non, alors avec le réchauffement climatique, il y a de grandes chances que d'ici 10 ans, il soit en France, votre avocat. Mais effectivement, pour la planète, c'est mieux parce que notamment l'élevage et l'élevage bovin principalement sont responsables de 14,5% des gaz à effet de serre sur la planète, donc c'est beaucoup.
On parle de déforestation, on parle d'émissions de méthane avec l'élevage bovin.
Alors, oui, principalement le méthane, la déforestation aussi. Mais si vous voulez, on sait que les prairies captent beaucoup de carbone, donc c'est important aussi. Ils ont un rôle, ces troupeaux. Donc, on ne sera pas tous véganes en 2050, mais on me demande toujours ça.
Ce sera 10 milliards déjà, 10 milliards de bouches à nourrir.
Exactement, 10 milliards, mais pas tous véganes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du végétal, hein, on en fait beaucoup de buzz, notamment buzz médiatique. Mais il faut savoir qu'en France, par exemple, c'est 1% du marché de la viande, donc on est, et aux États-Unis encore moins, et c'est plutôt baissier pour l'instant aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les consommateurs s'y retrouvent pas complètement en termes de goût, en termes de naturalité, comme on disait tout à l'heure. Les premières alternatives végétales, c'était énormément d'additifs pour essayer de ressembler à de la viande.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce salon ? Aujourd'hui, voilà, on dit que le végétal a le vent en poupe. Quels sont les aliments, les matières premières, ou les start-up, justement, qui sont au cœur de l'action ?
Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit arriver des produits de deuxième, de troisième génération, avec des choses qui sont effectivement moins d'additifs. Donc, plutôt que de prendre des protéines végétales, de les texturer, etc., on va prendre par exemple des légumineuses, des légumes aussi, et c'est du végétal, mais c'est du végétal moins transformé, c'est ça qu'attendent les consommateurs aussi.
Alors expliquez-nous, là on est dans l'espace tendance et création alimentaire, hein, toujours dans ce salon CEFIA. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici en exposition ?
Alors parmi les 5 tendances du salon, là du coup, hein, où on va retrouver les tendances comme Blue Planet, donc tout ce qui est développement durable, hédonisme pour le plaisir, la nutrition, la santé, mais aussi tout ce qui est économie, réduction de coûts, parce que l'inflation est là. On a cette tendance végétale 2.0 qui effectivement est là depuis quelques années maintenant, et où on va retrouver certains des exposants du salon qui vont nous développer des ingrédients spécifiques pour pouvoir développer des alternatives végétales.
De la merguez végétale tranchée sans allergène.
Absolument. Et alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est André Bazin qui nous présente ce produit, et que André Bazin, c'est d'abord un fabricant de charcuterie, et que donc c'est ça dans cette tendance qui est intéressant, c'est que tous les acteurs du monde animal ont compris aussi le rôle qu'ils avaient à jouer et nous proposent maintenant des alternatives végétales. Et comme vous le soulignez, c'est sans allergène et avec le moins d'additifs possible pour pouvoir faire une alternative pour les consommateurs.
Est-ce qu'actuellement on le voit, donc du coup les industriels deviennent également précurseurs de tendance, et comment ça se passe quand on fait, on va dire, de la merguez à base de protéines animales et ensuite à base de protéines végétales ? Est-ce qu'ils le font parce que c'est les attentes des consommateurs ou c'est parce que c'est juste une tendance ?
Alors, on est ici sur un salon d'ingrédients. On les appelle des PAistes, nous, pour les produits alimentaires intermédiaires. Et on est toujours en avance sur les tendances. On dit toujours, nous, que l'ingrédient nouveau d'aujourd'hui fera le produit nouveau de demain. Et alors qu'il y a quelques années, les fournisseurs d'ingrédients, ils étaient vraiment plutôt attentistes. Ils avaient des listes de produits à présenter aux clients, et voilà. Aujourd'hui, ils sont vraiment très en amont. Et donc, ils sont très force de proposition. Ils travaillent avec leurs clients pour développer à façon des ingrédients spécifiques.
Alors, de manière très concrète, le dernier mot de la fin, Sophie de Rénal, si aujourd'hui les acteurs ne se lancent pas dans le végétal, quel est leur avenir ?
Alors, attention, hein, comme je vous l'ai dit, on ne sera pas tous véganes en 2050, donc il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire autour de la viande. Et d'ailleurs, là, ça permet à la filière viande de se réinventer, cette tendance végétale, hein, de s'améliorer. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est surtout l'innovation qui est importante. On dit qu'un produit sur deux qui existe aujourd'hui ne sera plus là dans 5 ans sur les étals. Donc celui qui n'innove pas sera plus là demain.
Ne se projettera pas.
Voilà,
merci
exactement.
Merci infiniment.
Avec plaisir.
Sophie de Rénal, on vous souhaite un excellent salon et merci pour tous ces incentives végétales.
Merci beaucoup à vous.
Et parmi les exposants, les acteurs de ce CEFIA 2023, on retrouve la start-up Imveja, avec notamment sa directrice marketing et RSE, avec Catherine Louette. Alors vous, chez Imveja, vous êtes convaincus que les protéines végétales seront au cœur de l'alimentation de demain. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors expliquez-nous, vous faites quel pari depuis 8 ans avec Imveja ?
Bien, le pari, c'est de pouvoir intégrer les légumineuses de plus en plus dans l'alimentation. Aujourd'hui, on sait qu'en France, on est en déficit de consommation de légumineuses. Et nous, on a envie de contribuer à un rééquilibrage entre les protéines végétales et les protéines animales.
Alors expliquez-nous, on est sur votre stand, on voit des céréales, on voit des cornflakes, on voit une brioche, on voit encore des financiers. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces produits, dans ces aliments, dans ces matières premières?
Alors ni vu ni connu, on a caché dedans des légumineuses. Alors ici, nous avons une brioche.
Ouais.
Une brioche dans laquelle on est venu remplacer une partie des céréales par des légumineuses.
Comme lesquelles?
Bien écoutez, il doit y avoir du lupin et de la févrole. Donc ça veut dire qu'on a une couleur qui reste bien, bien agréable, pas de changement de goût. Ici, nous avons des financiers sur lesquels on est venu remplacer une partie des œufs et des céréales par du soja, de la farine de soja. Donc même chose, on garde la gourmandise.
Le soja qui vient ?
Le soja qui vient d'Europe. L'idée, c'est d'avoir des filières les plus courtes possibles, même si on peut avoir des problèmes de disponibilité en ce moment.
Très bien, et on continue ?
Alors, pour vous montrer quelques ingrédients, donc nous, on travaille avec des gens qui sont dans l'industrie agroalimentaire, donc on ne fait pas de produits consommateurs. Donc tous ces produits, c'est les produits qu'on vend à nos clients sous forme de farine. Donc ça, c'est de la farine de févrole. On a ici, de la farine de lupin.
D'accord, très bien.
De la farine de haricots rouges.
D'accord, et c'est vraiment, blanc.
C'est blanc, légèrement rosé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une boîte à outils pour nos clients qui vont leur permettre de jouer dans leurs recettes.
Alors justement, très bonne question, qui sont vos clients? Pourquoi on vous achète aujourd'hui ces farines qui sont des alternatives à la farine de blé, par exemple? Pourquoi?
Alors, on les achète pour venir améliorer les profils nutritionnels des recettes. Ça, intégrer des légumineuses permet d'augmenter le taux de protéines dans des recettes. Donc ça peut être des pains, des brioches, des plats cuisinés, également des produits hybrides avec de la viande. On vient augmenter le taux de fibres, baisser la matière grasse. Donc, on obtient au final des produits avec un Nutri-Score plus avantageux.
Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, voilà, vos farines alternatives, elles sont là, on va dire, c'est un bénéfice santé?
C'est un bénéfice santé et environnement.
Et pourquoi bénéfice santé? On aimerait comprendre.
Pourquoi? Parce que si on consomme que de la viande, on sait que la viande peut avoir beaucoup de matière grasse. Donc, nous, on vient compenser ça. En le diminuant, et on sait que l'homme est un omnivore. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'homme consomme un petit peu moins de viande et un petit peu plus de végétal.
Alors j'ai été parcourir votre site, on voit qu'il y a des saucisses, des pâtes, des pâtisseries, des terrines. Alors qu'est-ce que vous mettez par exemple dans les saucisses qui viennent chez vous?
Alors dans les saucisses, en fait, on va faire un mélange de TVP. Donc les TVP, ce sont des protéines texturées. Donc mécanique.
À partir de...
Alors ça peut être du blé, ça peut être du soja, ça peut être de la lentille verte, de la lentille corail. Selon l'origine des matières premières, on va obtenir des textures et des couleurs différentes. Par exemple, la lentille verte, ça matche super bien avec le bœuf, alors que le blé qui est plus clair en couleur va matcher super bien avec le poulet.
Donc par exemple, qui sont vos clients alors?
Alors nos clients, ce sont tous les professionnels de l'agroalimentaire, que ce soit en France ou en Europe. Donc aujourd'hui, on est à 50-50 entre la France et le territoire européen. Et ce sont des gens qui sont actifs dans les plats cuisinés, dans la boulangerie-viennoiserie.
Il ne peut pas y avoir de nom?
De préférence pas. C'est le côté B2B où on cache un peu nos clients. On préserve un peu puisqu'on a des accords de confidentialité avec certains d'entre eux. Mais en tout cas, des grandes marques connues sur les céréales, sur la viande, sur les plats cuisinés.
Alors Catherine Louette, ça fait 8 ans que Véja existe. Est-ce que vous voyez un changement, une appétence effectivement de ces acteurs de l'agroalimentaire qui ont une appétence justement à travailler avec vos ingrédients?
Oui, alors je dirais qu'ils évoluent en même temps que le consommateur. Ça veut dire des pas en avant, quelques pas en arrière aussi, où on tente le 100% végétal, ça ne fonctionne pas tout à fait avec le consommateur. Alors on revient en arrière pour des solutions hybrides. Et là où on a vraiment une valeur ajoutée pour nos clients, c'est pour leur apprendre à utiliser les légumineuses, en les associant pour vraiment être sur des solutions et pas des ingrédients simples.
Y a-t-il un secteur, une voie, voilà, qui font, justement, ils font plus appel à vos ingrédients?
Historiquement,
la pâtisserie,
ouais, voilà, ça, historiquement tout ce qui est boulangerie, mais on sent vraiment une ouverture qui est en train de se faire dans les autres métiers qui sont certes moins matures mais qui vont y venir progressivement, d'où l'intérêt aussi de les accompagner et d'être une force de proposition avec des recettes comme nous on le fait, toutes prêtes pour qu'ils puissent tester les ingrédients.
On le rappelle, hein, chez Imveja, vous avez notamment 3 sites de production, 2 en France, notamment près de Rennes. Et un troisième aux Pays-Bas. Vous avez déjà une plus de 50 collaborateurs. Merci infiniment, Catherine Louette. On vous souhaite un très bon salon. Et puis merci
beaucoup.
Infiniment voilà, de nous faire partager on va dire, vos solutions protéines végétales. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et pour terminer cette émission, un autre acteur, mais cette fois-ci, nous allons parler d'emballage consigné avec la start-up Bernipa qui a été lancée post-Covid il y a tout juste 2 ans. Olivier de Kerimel, vous êtes son fondateur. Alors vous, votre idée, c'est de remplacer les barquettes à usage unique des produits frais. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne avec justement, on va dire, votre Bernipa là dans les mains.
Donc en fait c'est très simple, c'est une barquette en inox plutôt que d'avoir une barquette en plastique. On a une barquette en inox qui va être réemployée, donc qui va être lavée pour être remise en circulation derrière. Donc elle va faire plein de cycles pour éviter le jetable.
Alors très bien, elle va faire plein de cycles, mais où on se la procure? Qui sont vos clients? Où sont-elles distribuées?
Donc elles sont distribuées en grande distribution, donc nos clients sont les grandes enseignes
comme
Leclerc, U, Auchan, Intermarché, U. Et en fait on leur propose ces emballages-là. Pour éviter qu'ils achètent des emballages jetables, on leur propose ces emballages réemployables.
Alors comment ça marche? Et surtout ensuite, le consommateur, une fois qu'il est dans un supermarché, comment est-il sensibilisé? Puis surtout, il y a une consigne. Alors comment ça se passe?
Exactement. Donc la consigne, c'est important parce que c'est justement ce qui fait revenir l'emballage. C'est ce qui sensibilise le consommateur à rapporter l'emballage et à dire, ben voilà, je veux qu'elle fasse un autre cycle.
Alors et donc, comment ça se passe?
Et donc le consommateur le rapporte en magasin pour qu'il se fasse rembourser la consigne.
Rembourser de combien?
Rembourser de 2 euros, par exemple, sur ce format-là.
Est-ce que ça marche bien concrètement?
Ça marche.
Vous êtes lancé il y a 2 ans. Vous êtes présent dans combien de supermarchés ou hypermarchés?
On est présent dans 5 enseignes aujourd'hui sur l'ouest de la France.
Très bien.
Et aujourd'hui, on a des très bons retours d'un point de vue consommateur. Donc le consommateur joue le jeu parce qu'il rapporte l'emballage. Et évidemment, il faut qu'on aille plus loin encore en proposant beaucoup plus de produits conditionnés en réemployables.
Donc vous, ensuite, ça marche comment en interne? Quand vous les récupérez, vous les faites laver comment?
Donc nous, on vient récupérer en magasin les contenants sales. Ensuite, on les fait laver et on les redistribue ensuite au magasin d'à côté ou à l'industriel d'à côté.
Donc ça marche très bien pour le rayon boucherie, charcuterie, poissonnerie. Traiteur, ça se passe comment?
Traiteur, tous les produits frais qu'on trouve aujourd'hui en magasin qui sont conditionnés dans des emballages plastiques.
Et en quoi, du coup, vous êtes plus éco-responsable?
C'est plus éco-responsable, c'est plus responsable en tout cas parce que ça évite justement de jeter des déchets, ça évite de toujours avoir à fournir de la matière première, ça évite le recyclage et donc on est plus sur du lavage très simplement. Et donc on va permettre à un emballage de faire plus de 100 cycles, là où un emballage jetable n'en fait qu'un.
Est-ce que c'est possible quand on est consommateur d'acheter donc du coup avec votre Bernipa et surtout de le garder, de revenir? Est-ce que ça marche?
C'est
une bonne question.
C'est une bonne question. Il y a des consommateurs qui les gardent. C'est pas le but. Le but, c'est que les emballages tournent. Il faut que ça fasse des cycles. Donc le consommateur, lui, il peut le réutiliser chez lui s'il a envie. Mais le but, c'est qu'il le rapporte au magasin pour que nous, on puisse le faire des cycles derrière.
Il n'y a qu'une taille, du coup? Ou il y a plusieurs?
Non, il y a plusieurs tailles, hein, plusieurs formats.
Et vous savez en quelle matière?
C'est en inox. Donc en inox brut, fabriqué en France. Voilà.
Et vous faites comment aujourd'hui? Vous intéressez ça surtout à la grande distribution?
Grande distribution, industrie agroalimentaire et aussi la restauration collective.
Et eux, ils gagnent quoi? Est-ce que c'est un coût économique ou pas de remplacer leur barquette à usage unique par justement vos Bernipa?
À ce jour, ce n'est pas encore économique, mais écologique.
Alors expliquez-nous en quoi ça coûte combien pour la grande distribution aujourd'hui d'utiliser votre Bernipa?
Il faut compter aujourd'hui des barquettes de ce type-là, ça va coûter 50 centimes, là où aujourd'hui ils paient 10 centimes pour une barquette.
Et donc, comment vous faites pour les convaincre?
C'est eux qui sont convaincus.
C'est la feuille de route RSE.
C'est eux qui sont convaincus, c'est exactement ça. C'est pour l'aspect écologique. C'est aussi pour proposer un nouveau service à leurs consommateurs. Et ça permet aussi de fidéliser le consommateur.
Et quels sont vos objectifs de développement? Là, on est au début de l'année 2023. Horizon peut-être fin 2024. Vous espérez être présent dans combien d'enseignes?
Donc fin 2023, on a prévu d'être présent dans 80 magasins répartis sur les 6 enseignes, les grandes enseignes. Et l'idée, c'est là, on va passer à l'étape d'après en 2024. C'est de passer avec les conditionnements des produits industriels. Donc de vraiment avoir des grandes marques qui conditionnent dans des contenants en inox maintenant.
Alors montrez-nous un peu le cycle de vie. Là, on est sur votre stand. Montrez-nous comment ça fonctionne.
Donc le cycle de vie, c'est nous on livre ces contenants-là à un industriel ou au magasin. Et c'est lui qui va aller conditionner ces produits-là soit sur son laboratoire en interne, soit dans sa ligne de production. Et ensuite c'est mis en rayon, comme on peut le voir ici avec des filets de poisson. Et donc c'est mis au rayon poissonnerie et on va avoir ces produits-là qui seront proposés en contenant consigné.
Et comment vous faites aujourd'hui, les consommateurs, comment la consigne, là, je vois 3 euros, c'est peut-être pas évident pour les petits porte-monnaies. Comment vous essayez de les convaincre en disant, si vous le rapportez, en tout cas, ce sera...
C'était pas évident au départ, mais en fait, on a réalisé que tous les consommateurs jouaient le jeu parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se faire rembourser très rapidement. Donc, dès le lendemain, ils pouvaient retrouver leurs 3 euros s'ils le rapportaient en magasin. Donc, en fait, c'est tout type de consommateurs, on l'a constaté, c'est maintenant, c'est tout type de consommateurs se tournent vers ce type de solution-là.
Bon, et très bien. Et vous, donc, après la France, vous voulez vous déployer où ?
En Europe.
En Allemagne, en Italie, ouais, en Espagne.
Exactement. Voilà. Parce qu'il y a des pays qui sont très, très intéressants, justement, pour le retour de la consigne, comme l'Allemagne ou la Scandinavie.
Pourquoi ? Ils sont plus sensibilisés ?
Parce qu'ils sont beaucoup plus en avance sur la consigne dans ces pays-là. Et voilà. Et les consommateurs sont déjà très avertis sur ce sujet.
Bah super, on vous souhaite en tout cas un super développement. Merci, merci infiniment Olivier de Kerimel pour nous avoir présenté en tout cas ce Bernie Pack, et on vous souhaite un excellent salon.
Avec plaisir, merci.
Objectif Raison d'être touche à sa fin. J'espère que cette émission spéciale en plein cœur du salon Cefia depuis le parc des expositions de Rennes vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous.